Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de me déporter un tout petit peu. Je suis un peu plus au nord du territoire. Je suis en fait dans l'Astarac. On va situer l'Astarac. On est à quelques pas de Miélan. On rejoint jusqu'à Castelnau-Magnouac, donc ce territoire frontière entre le Gers et les Hautes-Pyrénées. Et si je suis venu à Astarac, en fait, je suis venu à la rencontre d'une personne que je ne connaissais pas préalablement, que j'ai rencontrée à l'occasion du pèlerinage des agriculteurs qui s'était tenu en fin d'année dernière. Et donc, c'est Xavier Crespe qui était venu, qui s'était fait connaître et qui a eu une vie, un parcours que j'ai trouvé très intéressant à partager avec vous, chers auditeurs. Et donc, voilà, je vais vous proposer un aller-retour autour de nos questions et autour du regard de Xavier Crespe. Et je pense que ça va être passionnant. Bonjour Xavier, peut-être deux mots de présentation.
Bonjour Benoît, et écoutez, j'espère que ça sera passionnant, je ne sais pas. J'ai un parcours un petit peu atypique pour un agriculteur, en quelque sorte, oui. J'étais originaire de l'Aisne, donc bien au-delà de la Garonne, et donc de souche agricole. Et en 1979, lorsque je me suis marié, j'étais encore assez jeune, puisque j'avais à peu près 20 ans, et mon papa devait céder la ferme. J'ai donc repris cette exploitation après des études traditionnelles au lycée agricole de ma région. C'était notre passion avec mon épouse Béatrice et on était heureux de reprendre cette exploitation familiale et de continuer entre la polyculture et l'élevage, puisque j'avais un petit atelier de taurillon et un élevage de lapins. La vie en a décidé autrement, puisque 7-8 ans après, en 87, il y avait déjà les prémices de la PAC, il y avait des soucis familiaux chez nous, et au niveau avec la famille, enfin c'était compliqué pour rester indépendant. Et on a décidé, avec mon épouse et nos trois petites filles, de se dire qu'il fallait peut-être jeter l'éponge et changer de métier. Mes parents l'ont bien pris, on l'a fait. Contraint, forcé, meurtri, malgré tout. Et je me souviens à l'époque que ma maman m'avait dit « Tu sais, ton seul capital, c'est ton épouse et tes trois filles. Et c'est ça qui est le plus important pour continuer ta vie. Et tu as toujours une petite étoile qui te précède. » À l'époque, quand ma maman m'avait dit ça, c'est vrai que j'étais élevé dans la tradition chrétienne, même si je m'en étais peut-être un peu éloigné, mais ça m'avait quand même marqué, puisque je vous en parle encore aujourd'hui. Et nous avons changé carrément de métier et de région, et nous sommes partis pour la Normandie, et nous avons repris une maison de la presse à Cabourg. C'était un lieu privilégié, certes. Alors pourquoi une maison de la presse ? Ben, je pense qu'on me l'a souvent posé la question ensuite, l'exemplarité de certaines personnes. Dans mon petit pays, dans l'Aisne, il y avait une petite maison de la presse qui était bien tenue avec des gens aimables, qui vendaient de la librairie, qui vendaient de la presse, bien entendu, et de la papeterie. Et ça m'avait marqué de voir ces gens-là aimables, accueillants, et qui, globalement, avaient l'air de vivre bien. Or, nous, à l'époque, c'était le plus important, c'était de rebondir et de trouver une profession où on puisse bien vivre, travailler ensemble avec mon épouse et puis pouvoir élever nos enfants à peu près normalement. Et donc, nous sommes arrivés à Cabourg en connaissant, on aimait la librairie, certes, on aimait lire, et donc on est redémarré à zéro. Pour faire simple, j'ai eu la chance aussi dans ces années à Cabourg où nous sommes restés pendant 7 ans de rencontrer des personnes de la profession qui m'ont amené à m'occuper, puisque l'hiver à Cabourg il y avait un petit peu moins de monde puisque c'était une station saisonnière, à m'occuper un petit peu des syndicats de presse, de m'occuper un peu de la profession. Donc j'avais un regard neuf sur un métier pour moi qui était neuf. Et en avançant, je me suis aperçu que ça nous plaisait bien. Et la relation aux autres a été importante. J'ai donc été assez rapidement... C'était pas une revanche sur la vie, mais ça s'est fait naturellement. Je me suis retrouvé président de région pour l'Union des diffuseurs de presse nationale. Et puis après, au comité directeur à Paris. Et j'avais quand même toujours dans l'esprit, d'une part, un petit peu mes origines. Et d'autre part, j'étais passé, ce que je dis communément comme ça, de la culture de mon blé et des betteraves à la culture avec un grand C, puisqu'on tenait une librairie quand même, et en même temps, on côtoyait des éditeurs. C'était un métier passionnant et on s'est mis à plein dedans. Et aussi, avec cette organisation syndicale, à rencontrer des gens, partager avec des gens, essayer d'aider des personnes, et chacun avec son peu qu'on peut apporter, de faire évoluer les choses. Ensuite, nous sommes partis dans la Manche. Alors là, c'était un département beaucoup plus rural, donc mes racines paysannes sont bien ressorties dans la Manche, où là, on distribuait la presse sur le département de la Manche, pratiquement à la fin. Et donc, c'était un contact plus particulier avec tous les marchands de journaux qu'on distribuait, aussi d'animer une équipe au niveau de notre travail, puisque là, c'était une dimension d'entreprise. Et à ce moment-là, sont entrées toujours pareil, la notion de partage, la notion aussi de mon travail bien fait, puisque c'est un travail où il faut être excessivement rigoureux, et cela toute l'année. Et bien souvent, quand on nous demandait « mais vous avez jamais trop de vacances, vous partez pas », je pensais toujours aux agriculteurs qui ont des vaches à traire, surtout dans la Manche, et je me disais « si j'étais paysan dans la Manche, il faudrait bien que je traie mes vaches avec Béatrice tous les jours. » Nous, c'est la même chose dans notre parcours professionnel, où on est pris tout le temps, mais où on s'intéresse aux autres, et ainsi de suite. Bon, ça, c'est pour la partie professionnelle. Ensuite, dans les années 2010, où on était au plus fort de notre activité, nos enfants avaient grandi. Arrivait la période Internet, arrivaient toutes ces choses qui allaient chambouler, comme lorsque nous avions quitté la ferme, l'arrivée de la PAC qui chamboulait bien des choses. J'ai dit à mon épouse un jour, on va peut-être vendre cette entreprise, c'est peut-être le moment de la vendre, on a des opportunités avec des groupes de presse, c'est le moment de le faire. Ma femme m'a demandé si j'étais pas un peu fou, et puis après je lui ai dit, on pourrait vivre différemment et autrement. Bon, après réflexion, on a donc décidé de vendre et nous savoir un petit peu comment on allait organiser notre vie. Nous avions 53 ans à l'époque et nous avons décidé de trouver une région qui correspondrait surtout un petit peu à ce qu'on a toujours aimé et qui était toujours sous-jacent, c'était l'agriculture, le monde rural. Et nous sommes descendus dans le Gers. On a eu de la chance, toujours cette petite étoile qui nous précède sûrement. Et on a retrouvé un corps de ferme aux confins de l'Astarac et des Pyrénées. Et nous avons installé nos valises là. Nous avons restauré ce corps de ferme et commencé à s'intéresser au monde rural qui nous entourait. Et nous avons eu la chance d'être bien accueillis. De surcroît, j'ai rencontré des personnes et de fil en aiguille, on m'a demandé si je, compte tenu un petit peu de mes origines, je ne pouvais pas travailler pour un groupe de presse qui faisait des articles agricoles, le groupe Réussir, donc qui faisait des articles pour Réussir, Aviculture et ainsi de suite. J'ai dit, oh là là, mais j'ai jamais fait d'article, ça ne va jamais marcher cette histoire. Et j'ai tenté l'expérience en expliquant bien au rédacteur en chef de Réussir, Aviculture, vous savez, moi je veux bien essayer, si ça ne va pas, vous me le direz. On a à peu près le même âge, mais je viens chez vous comme apprenti, donc vous m'apprendrez, et puis on verra bien. Il se fait que ça a bien marché. Je n'aurais jamais pensé à cette époque-là, donc dans les années 2012-13, pouvoir renouer avec le monde agricole d'une façon aussi rapide et, je dirais, aussi sympathique. Bon, notre choix du Gers et du plus largement de l'Occitanie, on va dire. C'était aussi quand même parce que ça rompait un petit peu avec nos départements d'origine qui étaient passés beaucoup plus dans une espèce d'agro-business qui ne nous intéressait pas vraiment et où les fermes familiales n'existaient plus vraiment non plus d'ailleurs. Et nous retrouvions dans le Gers quand même toute une attitude de proximité, d'exploitation familiale, de proximité, où c'était un ensemble autour de la transmission, la transmission certes, mais aussi autour de l'entreprise, autour de la ferme, où les rapports étaient beaucoup, nous convenaient davantage. Toute cette période où j'ai rencontré effectivement des agriculteurs du Gers, certes, mais aussi de la Chalosse, des éleveurs dans les dans les Hautes-Pyrénées, dans tous ces départements-là, ça a été une période vraiment extraordinaire. Non seulement c'est créé un climat de confiance, puisque je relisais tous mes articles aux interviewés avant de l'envoyer en rédaction, que ce soit en grande culture, en vigne ou en aviculture, puisque j'avais élargi mon domaine de compétences. Mais en même temps, la confiance s'est établie, certes, mais aussi des relations d'amitié qui m'ont fait découvrir des personnes avec qui je suis toujours en relation. J'ai eu la chance de rencontrer cette petite association qui travaillait à l'époque à Marcillac lorsqu'il y avait les journées agrobiosciences et découvrir le potentiel énorme des agriculteurs et des éleveurs des Hautes-Pyrénées, de tout ce secteur, même de l'Astarac, puisque l'Astarac, on est très proche. Et puis après, de découvrir aussi, sur le plan humain, des gens qui nous ont beaucoup apporté. Dans notre vie, avec mon épouse, on a toujours essayé d'apporter aux gens, même les gens avec qui on a travaillé, nos collaborateurs, nos collaboratrices, les gens avec qui on travaillait, pour la livraison de la presse, pour toutes ces choses-là, et nos clients aussi, quand même, parce qu'on a eu des clients, eh bien, je pense qu'ils nous ont toujours apporté. Ensuite, me rapprochant quand même, puisque j'avais un peu plus de temps, et mon épouse aussi, un peu plus de la religion, peut-être. Alors, c'est peut-être pour question forcément de temps, mais aussi peut-être de se poser les vraies questions. Voilà, quand on se pose un petit peu. J'ai participé avec la paroisse d'Auch aux journaux paroissiaux de Auch et de ses environs, qui tiraient quand même à l'époque à 15 000 exemplaires, qui étaient faits avec Bayard Press. Et là, ça a été une aventure d'échange, de proximité, la même chose, et où on allait toujours à la rencontre, de nos paroissiens, mais pas que. Comme disait l'abbé Fauré, qui était un des fondateurs des journaux paroissiaux du Gers, il faut le rappeler, on ne fait pas un journal qui parle les cathos par le catho, mais on fait un journal pour aller dans les périphéries, pour aller donner un message avec une dimension chrétienne sans vraiment en parler. Alors l'exercice était beaucoup plus dur, mais beaucoup plus intéressant. Voilà, donc ça a été aussi une partie forte de notre vie. Et puis je pense que c'est une grâce si on est arrivé là, je le ressens comme ça maintenant, on a la chance d'être à proximité de Lourdes. Mon épouse s'est beaucoup engagée dans l'hospitalité du Gers, voilà. Et puis nous, étant à Lourdes à côté, avec mon épouse, on a repris quand même une promesse qu'on avait faite à mes parents, qui vieillissaient, mais avec qui on pouvait avoir des discussions, même si on était plus loin, de repartir à Lourdes, puisque mes parents étaient hospitaliers du diocèse de Soissons, et de repartir à Lourdes et de continuer la mission. Alors, mon épouse continue la mission d'aller à Lourdes au niveau de l'hospitalité, certes. On a la chance d'être pas loin, j'y vais souvent. Évidemment, lorsque j'ai vu un jour un pèlerinage pour les agriculteurs, je me suis dit, tout n'est pas perdu. Il y a peut-être encore des chances qu'on puisse arriver à faire quelque chose, puisque dans le monde dans lequel on vit, tout est dispersé, tout est sans faire de pessimisme, mais enfin, c'est quand même un peu compliqué. Et donc, j'ai participé à ce pèlerinage, qui était un tout petit pèlerinage, qui avait l'air de rien. Mais comme m'a dit un commerçant de Lourdes après, un jour on en discutait, il me disait, tu sais, on a vu des petits pèlerinages de rien qui sont devenus des trucs énormes ensuite. Et ça, ça m'a pas rassuré, mais j'étais content déjà d'entendre ça. Et puis aussi de retrouver certains amis que j'avais des Hautes-Pyrénées qui étaient venus et avec qui j'avais passé toujours de bons moments. Voilà pour l'essentiel d'une carrière au plus bref possible, avec le souci de ne pas ennuyer ni de se mettre en avant.
Et effectivement, c'est une carrière longue et riche. Riche dans ses rencontres, riche aussi dans sa diversité des agricultures en même temps et puis des territoires dans le contexte. Et en quelques mots, puisqu'on va être à la fin de l'émission, qu'est-ce que vous souhaitez, vous, aujourd'hui, face à cette crise que vit l'agriculture, qu'est-ce que vous souhaitez pour cette agriculture ?
Ce que je souhaite surtout, c'est qu'on revienne à nos fondamentaux. Je crois qu'aujourd'hui, on est en train de complètement s'égarer. Les outils qu'ont créés nos anciens, qui sont les coopératives, qui sont tout ce mutualisme, est aujourd'hui, comment dire, il est complètement déconnecté de sa base, pour moi. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a bon nombre d'agriculteurs qui voudraient vivre de leur métier, vivre de leurs décisions et pas de celles qu'on leur impose, et puis en même temps arriver à garder une dimension humaine. J'entendais il n'y a pas longtemps un agriculteur qui me racontait dans la Starac, là, le préfet est venu voir une petite ferme, un élevage de chèvres de 40 hectares. Et comme je suis au conseil, avec 17 personnes, je lui ai posé la question, ça vous étonne pas quand même de voir 4 familles qui vivent sur 40 hectares avec un élevage de chèvres en vente directe et ainsi de suite, et qui arrivent à s'en sortir? Il y a déjà de quoi se poser la question. Je vous dirais simplement, on ne fera pas de tous les agriculteurs des commerçants, c'est sûr, mais je crois qu'il faut qu'on revienne quand même à des fondamentaux, c'est-à-dire l'agriculture familiale telle qu'on l'a connue et telle qu'on est en train de complètement ignorer.
Merci infiniment, Xavier. On aura l'occasion sans doute de repartir vers vous et de vous interroger parce qu'il y a quand même beaucoup de vécu et beaucoup de passion dans tout ça. Et je pense que c'est passionnant aussi pour nous de vous entendre. Merci encore et puis à bientôt donc. Au revoir.